2016. Ensuite, Chantal nous parlera du bilan de cette année. Et ensuite, nous terminerons avec les projets 2017. Ensuite, Chantal, l'autre, parlera des débuts de la Société scientifique, historique et archéologique, dont elle avait déjà parlé une première fois dans une séance de mardi du mois, mais où il y avait très peu de gens, parce que c'était la canicule. Une fois c'est la canicule, l'autre fois c'est le gel, et donc il peut y avoir des problèmes de sédimentation. Bon, alors, bilan moral de cette année. Vous savez que nos trois piliers, si on peut dire, c'est d'une part le bulletin, d'autre part les mardis du mois, les derniers mardis du mois, et enfin la bibliothèque. Les bulletins, c'est donc distribué enfin, à nos membres, et en principe, on essaie de tenir un équilibre entre les articles d'archéologie, et auxquels on ajoute l'histoire de l'art maintenant, et puis les articles d'histoire. Et dans les articles d'histoire, on essaie de tenir un certain équilibre entre des articles qui parleraient de la préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, et pour finir, de l'époque contemporaine. On essaie, mais ce n'est pas toujours faisable. Tout simplement parce que ça dépend énormément des articles qu'on nous propose. Et je constate qu'il y a beaucoup d'articles qui sont soit concernant le Moyen-Âge, et ça, ça vient surtout des étudiants de Limoges, soit des articles qui sont faits par des amateurs distingués, bien entendu. Ces amateurs distingués s'intéressant souvent à leur propre famille, à leur généalogie, et donc parlant beaucoup de sujets qui tournent autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Mais tout ça, c'est très intéressant. Et ça ne pose pas de problème. Alors, je me méfie un petit peu des articles hyper modernes. Tout simplement parce que les articles, disons, concernant les 50 dernières années, intéressent plutôt la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, plutôt que la nôtre. Alors, le bulletin donc, de cette année, vous l'avez donc reçu en principe. Sur la couverture, nous avons mis Collonges, plus exactement la chapelle des pénitents à Collonges, parce qu'elle a été évoquée dans l'article sur les temples protestants, c'est-à-dire les temples où les protestants de Collonges se sont réunis. Ils se sont donc réunis dans cette chapelle à un certain moment. Mes articles, ben, vous vous en souvenez, je pense. En archéologie, nous avons surtout eu les articles de M. Giraud, qui parle de Lot, et non pas de la Corrèze, mais enfin, c'est très lié à nous, d'autant plus que le bulletin du Lot dépasse rarement la Dordogne. Il y a nettement, si vous voulez, une limite qui est la Dordogne. Au nord de la Dordogne, ils nous laissent faire des articles, parce qu'ils considèrent peut-être que ce n'est pas vraiment le Lot, pas vraiment le Quercy. Et en revanche, nous, on essaie de ne pas trop dépasser la Dordogne, même si on peut aller jusqu'à Rocamadour, puisqu'après tout, Rocamadour a appartenu à l'abbaye de Tulle, et les granges tout autour de Rocamadour à l'abbaye de Bazine, autrement dit, une invasion de Limousin. Il y a eu, à plusieurs périodes, des invasions de Limousin dans le Quercy. Donc, on continue à envahir. On tente d'envahir. Bon, alors, en histoire, je pense que vous vous rappelez un article de M. Monzamir qui nous a fait aussi une conférence à la dernière Assemblée Générale sur les Éleuthètes, et pas Éleuthères, les Éleuthètes qui seraient donc un peuple intermédiaire entre les Némovis et les Cadurques. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas dans l'endroit où nous nous trouvons ? Ensuite, nous avons des articles qui ont été faits en série, si on peut dire, comme par exemple celui de Gaspard de Certains, que nous terminerons d'ailleurs cette année, celui du banquier Sanguinière, qui se continue cette année. Voilà, des articles qui se suivent d'une fois à l'autre. Ça, c'est donc pour le bulletin. Nous avons essayé de ne pas dépasser 300 pages pour des raisons de poste, c'est-à-dire que si on dépasse 300 pages, on va être dans un tarif nettement plus élevé, et ça sera dommage pour notre bilan. Donc on essaie de ne pas dépasser 300 pages, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, les mardis du mois. Alors au mois de janvier, Jean-Michel Valade nous avait parlé des jeunes loups corréziens, Là, c'est du coup un sujet hyper moderne. Lui, ça l'intéresse beaucoup. Et après tout, moi, je ne suis pas contre, hein, pourquoi pas. Et donc, il nous avait parlé vraiment de la Corrèze très récente. Au mois de février, c'était M. Couchard, qui nous avait rappelé l'époque héroïque des préhistoriens qui sont en même temps des amateurs. Je pense que vous vous rappelez de cette conférence. Au mois de mars, M. Lermineau nous avait parlé des forges en Corrèze. Au mois d'avril, M. Duverdier nous avait emmené beaucoup plus loin puisqu'il nous avait parlé des sagas islandaises. Vous voyez quand même qu'on est très éclectique. Et on s'est rendu compte que ces mardis du mois avaient un succès de plus en plus croissant. Au point que la dernière fois, ça a été extrêmement juste d'arriver à caser tout le monde. C'est la preuve donc que c'est des conférences qui attirent et qui intéressent. Au mois de mai, Madame Jabiol, ici présente, nous avait parlé des lettres d'Émile Magne, que nous publions, elle aussi, en deux parties, puisque nous ne publions que la partie de la guerre de 14-18. Alors, l'année dernière, on a donc publié la première partie, 1914-1915, et cette année, on mettra la suite jusqu'à la fin de la guerre. Je vous rappelle que son livre ne comprend pas que ses lettres de guerre. Le livre qu'elle a édité comporte toutes les lettres d'Émile Magne à son ami donc Alexis Jobert. Et c'est très intéressant parce que ça commence vers 1900 et ça se termine vers 1920. Autrement dit, c'est une très longue période. Très intéressant. Ensuite, au mois de juin, M. Lehèche nous a parlé du Chardon de Beaulieu, c'est-à-dire d'un journal de résidents parisiens originaires de Beaulieu, et qui donc faisaient un journal sur leur vie, et puis aussi sur ce qui se passait à Beaulieu. Au mois de septembre, alors je me suis occupée du centre de Brive, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte de description des différents quartiers qui se trouvent à l'intérieur de la première enceinte de Brive. Au mois d'octobre, M. Ponchon a lancé une superbe polémique sur la présence de Coco Chanel à Ouvrazine. Et cette polémique n'est pas close. On attend que les gens d'Ouvrazine nous apportent maintenant des preuves irréfutables que Coco Chanel était bien à Ouvrazine. Et enfin, au mois de novembre, Madame Houdard, et c'est là que vraiment la salle s'avérait un peu trop petite, nous a parlé donc de la femme en Corrèze. Voilà pour le bulletin. Pour la société, pour la bibliothèque. Pour les mardis. Alors pour la bibliothèque, qui est notre troisième pilier, évidemment le fait d'être à Malemort fait que nous avons moins de visites que lorsque nous étions à Brive, mais enfin nous rappelons quand même qu'il y a un parking. Et donc il est relativement facile de venir nous voir à Malemort. Les sociétés amies. Alors, le musée Labinche nous a demandé de l'aide pour son exposition Gasperi. Et nous avons donc prêté les conférences faites par Gasperi, que nous possédons à la société. C'est des conférences complètement écrites et qu'il avait faites sur l'histoire de l'art. Ces conférences complètent c'est pas des diapositives, ça doit être des plaques photographique que possède le musée et qui concerne ses conférences. Ils étaient donc extrêmement intéressés par notre apport. Et je remercie Madame Michelin de nous avoir très aimablement accueillis à cette occasion. Elle m'a promis d'ailleurs de faire cette année un article sur les activités du musée dans le bulletin. Et ça me paraît particulièrement intéressant. Alors, les amis du musée, Monsieur Descalognes est là. M. Descalognes a donc remplacé M. Couchard comme président. Et vous avez acheté donc des aquarelles avec les fonds des amis du musée. Là aussi, je vous demanderai peut-être un article à me faire sur ces aquarelles. Vous êtes d'accord? Parfait. Voilà pour les amis du musée, voilà pour le musée. Ensuite, la Société Savante du Centre, dont nous dépendons, nous avait proposé un sujet qui n'a pas attiré, c'était le théâtre, et on nous demandait donc de parler des séances théâtrales à Brive. Alors ça suppose, et c'est ça qui est embêtant, c'est que les gens qui s'intéressent à ce sujet, ils aient un peu de temps devant eux. Parce que on ne veut pas en 5 minutes, vous voyez, commencer à étudier ce qu'il y a eu comme pièce de théâtre à Brive, par quelle compagnie, etc. Et comme ils ne nous donnent leur sujet qu'au mois d'octobre, ou même en novembre, et que ces séances ont lieu au mois d'avril-mai, ça fait extrêmement peu de temps, vous voyez, pour se documenter. Il n'avait pourtant un sujet très amusant sur le théâtre à Brive, mais on ne l'aura pas proposé, donc, c'est l'histoire de Monsieur des Chalumeaux. Monsieur des Chalumeaux, c'est une pièce de théâtre qui se joue à Paris en 1807, donc sous l'Empire, qui continue à se jouer et qui a beaucoup de succès jusqu'à la Restauration, enfin pendant la Restauration, et c'est un soi-disant un bréviste. Et ce bréviste est un idiot, un peu comme Monsieur de Pourceaugnac. C'est un limousin type, c'est-à-dire un abruti, qui est originaire de Brive-la-Gaillarde. Il va à Marseille. Comme c'est le jour du Mardi Gras, il n'arrive pas à trouver de place dans les hôtels. Alors, il va coucher dans l'hôtel du duc de Villars, qui était gouverneur de Marseille, en croyant que c'est un hôtel. Et Monsieur le duc de Villars, pour rigoler, fait ce qu'on appelle un dîner de con, c'est-à-dire qu'il prend Monsieur de Chalumeaux et il invite ses copains à venir se moquer de Monsieur de Chalumeaux. Et donc, on se moque abondamment de lui dans toute la première partie de la pièce. Ensuite, alors, il y a des histoires de valets, ça cesse d'être intéressant, mais si vous voulez, ça ne se termine pas comme le vrai dîner de con, le film. C'est-à-dire que c'est bien, Monsieur de Villars s'amuse bien, quoi. Donc, des Chalumeaux vient par Brive, et ensuite, eh bien, pendant tout le 19e siècle, Brive-la-Gaillarde, c'était la ville de Monsieur des Chalumeaux. Alors, vers 1850, non, un peu avant 1830, un monsieur de Paris, qui était un banquier, passe par Brive, et pour se moquer des brivistes, il demande à voir Monsieur des Chalumeaux. Et il se trouve que le juge du tribunal lui répond immédiatement « Ah, mais oui, ben, on va vous le faire connaître, voilà, et alors vous venez demain et on va vous le montrer. » Et donc, il propose à Monsieur Vielban, qui habitait au château de Malcroix, de jouer le rôle de Monsieur des Chalumeaux. Et il le joue si bien que le banquier s'imagine que finalement cette pièce a utilisé ce vrai personnage. Il revient à Paris en disant « Ah, mais vous savez, il existe, Monsieur des Chalumeaux, il existe vraiment. » Bon, vous voyez le genre d'histoire. On aurait pu faire un bel article. Mais bon, on pourra le faire dans le bulletin.
Pourquoi pas?
Parce que c'est un sujet amusant. Il faut le documenter, quoi. Il faut le rendre plus documenté. Alors cette année, en revanche, ils nous ont proposé un sujet qui est beaucoup plus habituel et qui est les marges, c'est-à-dire les pays qui servent de frontières. Et comme nous, eh ben, on est en plein dedans, ben, je propose de leur donner comme sujet, enfin leur proposer comme sujet, la frontière Quercy-Limousin.
Ce sera où cette année?
Oui, c'est à Guéret.
Guéret.
Voilà.
Ça change tous les ans. C'est
oui, l'année dernière, c'était à Nevers, on n'est pas, pas allé. Le musée Marius Vazel nous a aussi demandé de l'aide, ou propose aussi à vous d'en donner, à propos du buste de Marius Vazel. Ils sont en train de se payer un buste de Marius Vazel, et ils sont prêts à recevoir les dons de ceux qui veulent bien aider à ce don. Leur seul problème, c'est qu'ils ont un endroit pour le mettre qui est dans l'église. Pas dans l'église même, mais à l'extérieur, dans une niche. Et là, les Beaux-Arts refusent qu'ils mettent cette statue ou ce buste dans cette niche, parce que ce n'est pas une statue religieuse. Marius Vazel n'était pas particulièrement connu pour ses opinions religieuses. C'était quand même un député communiste, un archéologue. C'est à cause de ça, surtout, bien sûr, qu'il a son buste. Mais enfin, dans l'église ou sur l'église, ça peut paraître un peu étrange. Alors, ils sont à la recherche d'un endroit où mettre le buste. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et je vais laisser la parole à Chantal pour le bilan. Et ensuite, eh bien, on vous demandera de l'approuver ou non.
Bon,
Alors le bilan, comme d'habitude, donc on tourne toujours avec notre budget d'à peu près 10 000 euros par an, c'est-à-dire qu'on a à peu près 10 000 euros de frais et on a 10 000 euros de recettes. Alors on a toujours au début de l'exercice, comme vous le voyez sur le bulletin chaque année, donc des fonds propres qui se répartissent pour un peu plus de 20 000 euros sur la caisse d'épargne, donc qui nous rapporte des frais chaque année, et sur le CCP à peu près 15 000 euros. Donc cette année, au jour d'aujourd'hui, nous avons rentré pour 8 390 euros de cotisations. Alors sur les cotisations, je vous dirai plusieurs choses, c'est-à-dire que notre listing comprend cette année 413 sociétaires, 39 échanges, c'est-à-dire que ce sont des sociétés avec lesquelles on échange, donc il n'y a pas de frais. 3 membres à vie, il n'en reste plus beaucoup, donc qui eux ne payent pas de cotisation. Donc avec un bref calcul, il resterait 371 cotisations à rentrer. Au jour d'aujourd'hui, il n'en est rentré que 261. Chaque année, on a une centaine de cotisations qui ne rentrent pas, mais bon, c'est comme ça. Ça nous permettrait, si vous calculez 25 euros par personne qui ne règle pas, d'avoir toujours une petite avance de budget. Mais bon, Madame Guély fait des rappels, c'est comme ça, on l'a acté, on n'est pas une société à but lucratif, donc c'est comme ça. Donc ça, ce sont les cotisations, les subventions. Nous avons 750 euros de subventions par an, 600 euros de la ville de Brive, que l'on remercie, et plus que 150 euros au Conseil général, qui diminue. Nous avions 300 euros il y a 2 ans, 250 l'an dernier, 150 cette année. Cette année, j'ai fait une demande de subvention, donc toujours pareil, pour 150 euros, qui nécessite des dossiers informatisés, je vous passe les détails, très compliqués. Et en même temps, je me suis permise de faire une demande exceptionnelle pour éventuellement aider pour le chantier de fouilles depuis Darnac. Alors là, on n'a aucun espoir de l'avoir, mais au moins on a fait la demande. Moi, j'ai demandé au titre de cette subvention exceptionnelle 1 000 euros. Je n'y crois pas un seul instant, mais au moins c'est fait. Cela montre aussi qu'on ne demande pas que du fonctionnement. On est une société, on fait des choses en plus du fonctionnement. Et je trouvais que c'était une bonne idée de les informer que la nouvelle branche d'archéologie et de fouilles sur le terrain était là et qu'il fallait y penser. Mais j'y crois pas. Et donc, comme je vous le disais, à la caisse d'épargne, nous avons eu 157 euros d'ajout, puisque donc le livret A rapporte 0,75% par an. Donc, nous avons un montant de recettes de 9 297 euros cette année. En dépenses, nous avons 9 027 euros cette année. Donc, vous voyez qu'il y a toujours. Enfin, le budget est stable, il n'y a pas de déficit. Donc l'entretien qu'on n'a pas encore payé, l'EDF, se chiffre à 250 euros, les assurances 254 euros. La plus grosse partie de nos dépenses, c'est l'impression, l'envoi, enfin la mise en page, l'impression et l'envoi du bulletin. Donc cette année, comme vous a expliqué Madame Guély, nous avons un bulletin de 320 pages qui pèse moins de 750 grammes. Et qui a un tarif à l'unité d'1,71 €. Dès qu'on franchit 751 grammes, on passe à 2,50 €. Donc nous avons réalisé une économie de 400 euros cette année à cause de. Voilà.
C'est le petit gramme.
De grammes. Bon, mais bon, je pense que le bulletin de 320 pages était correct. On y fait attention, donc on pèse, moi je pèse à chaque fois pour ne pas dépasser. Donc, ça comporte la mise en page, c'est-à-dire le graphiste, pour 1 760 euros. L'impression se fait donc toujours chez le même imprimeur à Bayonne pour 5 400 euros. Et donc la poste qui nous a seulement coûté environ 1 000 euros, alors que l'an dernier, nous en avions eu pour presque 1 300 euros du fait de ce dépassement. Voilà, le budget est équilibré cette année et dégage un bénéfice de 270 euros. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire.
Merci beaucoup.
Si vous avez des questions, de toute façon,
le. Admirer
un bilan financier extrêmement clair.
Oui,
c'est
oui,
pas le cas dans toutes les sociétés. Non. Il y a des fois où c'est incompréhensible.
Pas, si vous le voyez,
je trouve que c'est très compréhensible.
Mais de toute façon, il est imprimé dans le bulletin. Alors, je laisse toujours en suspens, je ne vous le donne pas aujourd'hui, parce que souvent, on a des cotisations qui rentrent. L'exercice, c'est un exercice civil, jusqu'au 31 décembre. Donc, peut-être que jusque-là, on aura les 100 qui
nous... C'est-à-dire que les gens qui payent avant le 31 peuvent demander...
Voilà, le reçu fiscal, enfin, toutes reçu les fiscal. Cotisations qui sont rentrées
tandis
après.
Tandis que s'ils payent après,
c'est pour l'année
d'après. Décembre, ils n'ont pas de bénéfice. Je vais vous demander d'approuver ou non notre bilan moral et financier. Les gens qui ont eu des questions à poser sur ce bilan, et voilà, ils lèvent le doigt pour que... et ceux qui sont contre lèvent le doigt aussi. On va dire que ça. Alors, je vous rappelle rapidement avant cette conférence très attendue. Donc, les projets de 2017, bulletin donc autour de 300 pages, article que nous terminons, en particulier donc Gaspard de Certain et le banquier sans lumière. D'autres, je pense, qui au contraire commencent. Je vais y inclure un article sur une banquière belge, sur une duchesse belge, elle n'est pas duchesse, elle est, est-ce qu'elle est baronne, une baronne belge, qui avait des gendres du Limousin. C'est-à-dire qu'il y avait trois gendres qui étaient tous les trois du Limousin. Et donc, c'est les lettres de cette baronne belge à ses gendres, et ça date de l'époque de la guerre de 7 ans, et jusqu'à la guerre suivante, c'est-à-dire milieu du XVIIIe siècle. C'est très amusant, parce que cette banquière, elle a l'esprit de cette baronne, elle a l'esprit très pratique, et les lettres qu'elle envoie à ses gendres du Limousin sont intéressantes à cause des détails très, très classiques, enfin très pratiques, qu'ils contiennent. Nous aurons un article de M. Lestani sur les pirates barbaresques et puis leurs captifs venus du Limousin. Je vous rappelle que c'est le thème de du prochain mardi du mois. Ce prochain mardi du mois, c'est le 31 janvier, et donc il sera aux archives municipales. En revanche, en février, nous n'avons pas encore le sujet. C'est peut-être cette banquière que je vais ressortir, si jamais on ne trouve pas d'autres sujets plus rapidement. Mais cette fois-ci, ça sera dans la petite salle qui se trouve dans la rue de la petite place.
Claude Fougère.
Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à rappeler, sinon il doit y avoir une raison psychologique quelconque. Parce que c'est le mot Fougère, c'est quelque chose. Il y a quelque chose Fougère, il doit y avoir quelque chose comme ça. Bon. Donc ça sera dans cette salle, et comme le dernier mardi du mois c'est mardi gras, je suppose qu'on va le reculer au 21, et au lieu de le faire donc le 28 février, c'est-à-dire le mardi gras, on le fera le 21 février. Ça me paraît logique, on ne va pas faire un truc le mardi gras quand même. Je ne sais pas si les gens du musée vont être d'accord.
Ça va être bloqué, le centre-ville.
En plus, le centre-ville bloqué, tout le
carnaval. Non, c'est le mercredi, le carnaval. Non, c'est le mercredi.
Ah, c'est le mercredi. Mais je pense qu'ils sont en congé.
C'est le mercredi. Enfin, il y aura les vacances scolaires. Sinon, le mardi gras, les gens travaillent. C'est pas le jour férié.
Bon, et bien dans ce cas-là, moi, je suis d'accord. On est mardi gras. Voilà. Ensuite, donc, nous allons sur ce sujet pour la fédération du centre qui sera sur les frontières. Pas de problème de ce côté-là. On a quelques projets pour les mardis du mois. Donc, cette dame qui va nous parler des émigrés du Cantal vers l'Espagne.
Vers Madrid.
Vers Madrid. Et
surtout de leur système bancaire qu'ils avaient mis au point. Voilà. Mais alors la date n'est pas encore fixée non plus.
La date n'est pas fixée, voilà. Il y a le monsieur...
Le monsieur des maths qui...
Ah oui, voilà, le monsieur de l'ABC du calcul.
Oui, et bon, peut-être qu'il va venir quand même cette année. Mais il a eu des vrais problèmes de santé, il m'a expliqué ça dans un mail. Bon, des excuses. Mais là, on va aller dans son corps, il doit nous dire à quelle date il veut venir.
Bon, le musée Varus Vazeil, puisque c'est toujours avec lui qu'on a beaucoup de contacts, organise une exposition de prestige sur les Étrusques. Et fait venir d'Étrurie tout un tas d'objets qui ont dû leur coûter très cher d'assurance. Alors, ce que je proposerais peut-être, c'est que quand cette exposition aura lieu, c'est-à-dire qu'elle doit être assez longue, elle doit durer assez longtemps à Meymac, on fête un quart et puis qu'on aille visiter cette expo en quart. Ça serait une idée comme ça que je vous propose. Et que je proposerai donc au mardi du mois, lorsque l'on a deux fois, pour trouver des amateurs. Le musée Labinche donc, nous donnera son article. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Et je vous remercie de votre attention. Et je vais passer la parole à Jean-Marc.
Est-ce qu'on fait là une photo, madame?
Vous voulez une photo? Allons-y. Essayez de prendre dans un coin où il y a du monde. Comme on a l'habitude dans les groupes.
Que vous voyez un peu occuper les places devant. Vous avez une photo, ça serait. Madame.
Mettez-vous là.
Par exemple, les madame Guéry.
Nos chevilles
sont hier.
Oui, ça fera plus.
Voilà, ça fera plus.
Oui.
Essayer d'en faire d'autres fois. Et la dernière. C'est bon.
Merci.
Merci beaucoup.
Je vais être
là. Reste là. Ah, ben du coup, je suis revenue là.
Non, excusez, je vais m'asseoir pour manipuler tout ce
machin. Donc, Madame Guéry, vous a dit que c'était notre 138e Assemblée Générale. Vous voyez que notre association est quand même un peu âgée maintenant. Elle a été créée en juillet 1878. Donc, ça n'est pas la plus vieille association de Brive, mais pas loin. La plus vieille, ce serait l'Harmonie Sainte-Cécile, qui aurait quelques années précédentes. En tout cas, il y a peu d'associations qui sont si anciennes et qui continuent leurs activités. Donc, en fait, voilà ce qui s'est passé. Au mois de juillet, donc 1878... Une quinzaine de notables brivistes se sont réunis pour créer une société savante. Alors on va se replacer un peu dans le contexte de l'époque. C'était une période un peu traumatisée par la guerre de 70, qui avait été quand même une défaite cuisante. Et on se posait beaucoup de questions. Mais pourquoi on a perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que les gens se posaient des questions. Pourquoi les Allemands, les Prussiens auraient été supérieurs? Alors vous allez voir qu'on va se poser des questions, même jusqu'à la morphologie des gens. Les grands seraient plus fort que les petits, enfin bon, des tas de trucs comme ça. Et on se pose beaucoup de questions sur le patriotisme, entre autres, des Prussiens qui auraient été quand même de meilleure qualité que celui des Français. Et donc, on va encourager à ce que un peu partout, les gens s'intéressent à l'histoire. Et donc, des sociétés historiques vont se créer, mais dans toute la France, dans l'idée que si on connaît mieux son histoire, eh bien, ma foi, on sera plus attaché à sa patrie, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Alors, donc, il y avait un projet d'une société savante corrézienne, qui était en pourparlers depuis plusieurs mois avec des érudits de tout le département. Mais bien sûr, se posait la question du siège de cette société. Est-ce que ça allait être Tulle, la préfecture, ou Brive, donc sous-préfecture, mais qui démographiquement avait rattrapé sa rivale. Donc, en fait, le problème a été résolu très soudainement quand, au mois de juin, les brivistes ont appris par un article de journal qu'une société savante venait d'être créée à Tulle, la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze. Alors ils se sont dit, on va arrêter de discuter, on va créer notre société. Et donc elle va s'appeler la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. Alors c'est vrai que c'est un intitulé un peu long, mais on voit bien que c'est pour se distinguer de la société tulliste. Donc puisqu'à Tulle on va être littéraire, et bien à Brive on va être scientifique. Alors comme ça, ça va éviter de se porter ombrage un petit peu. Et d'ailleurs, bon, les relations entre Brive et Tulle vont vite s'améliorer. Bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Et plusieurs érudits, et pas des moindres, on en parlera, adhèrent dès le départ aux deux associations. Alors on pourrait se dire, c'est dommage qu'il y ait eu cette mésentente, mais finalement, non. Moi, je pense que c'est plutôt de l'émulation, plutôt, et que ça a été profitable à la recherche. Et en plus, il va se créer, en 1894, une troisième société savante, qui est Limousie. Donc chacun aura un peu sa spécialité, si on veut, hein. Donc, à Tulle, c'est vrai que leur bulletin est plus littéraire, par exemple. Et à Limousie, c'est plus traditionnaliste, c'est plus l'Occitan, c'est plus des choses comme ça. Voilà. Alors, donc, c'est quand cette société est créée. Donc, nous en avons tous les comptes rendus dans ce registre qui est d'époque, là, voilà, que nous avons conservé à la société, où nous avons toutes les réunions, donc, et entre autres, la première, qui est donc là à la Fondation, l'Assemblée Générale fondatrice, donc le 9 septembre 1878. Je ne sais pas si vous lisez bien, c'est net. Donc voilà, donc c'est pour le but, c'est de fonder une société savante dans la Corrèze. Donc ça ne va pas être Société archéologique de Brive, hein, on est bien d'accord, c'est de la Corrèze. Voilà. Donc c'est réuni donc, le lundi 9 septembre 1878. Voilà. Alors, et ensuite le procès verbal. Alors, tout de suite, il va y avoir des bulletins. Donc le premier bulletin apparaît donc en octobre 1818. Alors on voit bien, faites bien attention donc, à l'intitulé, on voit bien que « historique », c'est écrit en beaucoup plus gros. Mais en fait, on va vite changer d'intitulé. Enfin, pas d'intitulé, mais voilà les prochains bulletins. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi j'ai fait ça, moi? Mon Dieu, il ne fallait pas. Voilà. On voit que là, c'est archéologique. Et là, on est en 1884. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous appelle la Société archéologique. Alors que logiquement, on devrait dire, je ne sais pas, c'est la Société scientifique ou historique. Non, c'est le troisième mot qui a été retenu. Alors, il faut savoir que cette couverture de bulletin, elle a été conservée jusqu'en 2004. Donc, pendant quand même très, très longtemps. Alors, on va s'intéresser à... Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc, là, pour passer? Mais zut, alors, je ne vois plus. Bon, c'est pas grave, si c'est là. Voilà. Donc, essayer de comprendre un peu ce qu'on voit, là, dans ces dessins-là. Alors, on voit qu'on va représenter donc, les trois villes principales de la Corrèze. Alors, ici, c'est Tulle. Ici, c'est Brive et Ussel. Alors, avec leur devise, qu'on ne voit pas très bien. Alors, la devise de Tulle, Sunt rupes virtutis iter, que l'on traduit par, c'est bien que tu lis ça, les chemins de la vertu sont parsemés de difficultés. Ben oui, ben oui. Alors, il y a Ussel. Alors, Ussel, le blason d'Ussel représente une porte scellée. Parce que la devise, c'est du français, la langue française, si on veut. Huis scelle mon droit. Il y a un jeu de mots sur... Ussel et Huis scelle mon droit. Et bien sûr, alors au centre et puis au sommet, et bien sûr, Brive et son orgueilleuse devise, Briva les mauvais qui inferioris caput. Ah, oui. Brive, capitale du Bas-Limousin. Bon. Alors on dit quand même, il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, à Brive, il y avait 12 000 habitants, à Tulle, 15 000. Donc bon, Brive était capitale, mais n'était pas encore la plus importante. Alors la première année, donc il y a quatre, en fait, on va faire quatre bulletins par an au début, hein, d'à peu près 725 pages en tout. Alors, le format du bulletin, c'est 23 cm sur 14,5. Alors, en fait, c'est un peu petit. Ça ne permet pas de donner un développement suffisant aux illustrations. Donc, à partir de 1884, donc au moment où on va changer pour passer par archéologie, donc en gros, le bulletin va être plus grand. Voilà. Et donc, je vous dis, c'est pour ça, probablement, qu'on appelle notre société la Société archéologique. Alors, le premier bulletin va publier donc les statuts de la société. Donc, premier statut, donc, je ne vais pas vous passer tous les articles, hein, il y en a 40. Donc, en premier, donc, la société a pour but de grouper tous ceux qui s'occupent des questions scientifiques, historiques et archéologiques intéressant le Limousin en général, les pays limitrophes et plus spécialement la Corrèze. Donc, les travaux purement littéraires ne seront pas admis. On les laisse à Tulle. Voilà. La société, alors, ce qui est très intéressant, c'est l'article 2, où on voit que c'est fondamental pour notre société. La société se propose en outre de rechercher, d'étudier et de conserver dans un musée spécial les débris antiques et les objets d'art épars dans la contrée, ainsi que les collections d'histoire naturelle formées de produits du pays. Donc la création de notre société est liée dès le départ à la création d'un musée à Brive. Alors les autres, donc les autres articles vont nous dire quoi ? L'article 6, par exemple, stipule que pour faire partie de la société, il faut adresser une demande écrite, et être parrainé par deux personnes. Ça, alors la demande écrite, je ne sais pas si ça a duré longtemps, mais être parrainé, oui. Moi-même, j'ai été parrainé. Je pense qu'ici, il doit y avoir des gens qui ont été parrainés. Mon parrain, c'était monsieur Chalard et madame Imon, moi, qui m'avaient parrainé pour être admis. Et normalement, les admissions sont votées à la séance suivante. Donc, on ne prenait pas n'importe qui. Alors là, ils ont fait une grave erreur d'écrire ça dans les statuts. Il y a marqué « La cotisation est de 10 francs ». Alors, les statuts, c'est immuable. Je suis désolée, Madame Guédy, on devrait vous payer 10 francs et pas plus. Parce que, dans la mesure où il n'y a jamais eu depuis d'Assemblée Générale extraordinaire pour refondre les statuts, ben, normalement, c'est toujours valable. Voilà. Ça, c'était... Ils ont fait une bêtise de faire ça. Enfin, bon, on s'en fiche un peu, je vous dirais. Alors, normalement, c'était 10 francs plus 5 pour le bulletin.
C'était beaucoup, hein. C'était très cher.
Ah, ben, ouais, voilà. Ce serait pas grand-chose, c'est sûr. Ouais, surtout que ça devait être des anciens francs, anciens. Donc, alors, un article intéressant, c'est l'article 12. Les dames seront admissibles aux mêmes conditions et jouissent des mêmes prérogatives. Je peux vous dire que des dames, il n'y en avait pas. Voilà, au début, il n'y en avait pas du tout. Quand il a commencé à en avoir, en fait, ben, c'était des veuves qui continuaient l'abonnement de leur mari. Voilà. On voit écrit Madame Veuve, un tel, Madame Veuve, voilà. Bon, les dames, elles n'étaient pas... Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer des photos, il n'y aura que des messieurs. Hein. Donc la société tient ses séances le second samedi de chaque mois. Alors les séances vont se tenir dans un premier temps dans des salles de l'hôtel de ville. C'est la mairie de Brive qui va mettre à disposition des salles. Donc elles se tiennent le soir à 8h et se poursuivent jusque vers 11h. Alors une histoire, quelque chose d'intéressant aussi, l'article 32. Aucun travail historique sur des questions postérieures à 1814 ne pourra être lu ou discuté au sein de la société. Voilà. On craignait, je pense, tous les problèmes un peu politiques, les choses un peu polémiques. Hein. Donc les manuscrits ou mémoires publiés sur des faits historiques postérieurs à cette date pourront être acceptés par la société, mais seulement pour prendre place dans la bibliothèque. On ne va rien publier, normalement, qui concerne ce qui se passe après 1814. Voilà. Alors, donc la première page du premier bulletin donc, donne les noms des fondateurs. Alors, on n'est pas surpris de constater que c'est des notables brivistes, hein, des notaires, médecins, banquiers, architectes. Donc, on va retenir surtout ceux qui ont le plus œuvré pour la société, donc soit par leur publication, soit par les dons. Alors, vous allez voir que beaucoup de ces noms vont vous dire quelque chose parce qu'ils ont été donnés à des noms de rue à Brive. Si y a quelqu'un de la municipalité ici, je suggère de continuer cette sympathique tradition, hein, de donner des noms, hein, après tout, pourquoi pas. Alors le premier président, par contre, lui, bah, il n'a pas laissé un grand souvenir. Il s'appelait Georges Mouret. Donc il était né à Paris en 1850. Donc vous voyez, la société est fondée en 78. Donc il faut savoir que cette société, elle a été fondée par des gens vraiment jeunes. Alors les photos que je vais vous montrer, souvent ils sont âgés. On a l'impression que voilà, c'est un peu des gens un peu troisième âge. Pas du tout. Hein. Ceux qui ont fondé la société, ils avaient entre 25 et 40 ans. Hein. Donc il avait 28 ans, donc le premier président. Alors, évidemment, la photo ne date pas de cette époque-là, vous vous en doutez. Alors c'était un polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Alors en fait, il était affecté en Corrèze au service hydraulique, puis à la construction des chemins de fer. Il participe à la levée de la carte géologique détaillée et sera en 1888 vice-président de la Société géographique de France. Alors pourquoi on l'a pris lui comme président ? Il n'est pas corrézien. Moi je pense que c'est parce qu'il n'avait justement pas de parti pris dans cette histoire Brive-Tulle. Donc là on était tranquille, voilà, pas de polémique autour du premier président. Et d'ailleurs il a adhéré tout de suite à l'association de Tulle aussi, comme ça on calme le jeu. Alors sa contribution a été brève, parce que peu de temps plus tard, une promotion professionnelle l'a affecté dans une autre région. Donc il n'a fait qu'un court passage ici. Alors ensuite, le président suivant, c'est François-Élie Masséna. Donc voilà quelqu'un qui a donné son nom à une rue. Donc en fait, la famille Masséna, ils sont plusieurs à Brive, je crois. Donc lui, il était donc né à Brive, industriel. C'était un membre du conseil municipal et il possédait une manufacture de papier à Malemort. Donc Madame Guélie nous dit que c'est intéressant parce qu'il récupérait des vieux papiers, entre autres. Donc c'est quelqu'un qui nous a amené beaucoup de vieilles archives. Alors, pour l'historien Champeval, qui partage ses opinions conservatrices, c'est un homme au franc-parler, trop généreux pour son temps. Alors, c'est surtout un collectionneur et un paléontologue. En 1893, il publie « Les stations de l'âge du Rennes », et qui est un livre qui est récompensé par le prix de l'Académie des sciences. C'est un célibataire, il est mort en 1903, et il a fait don de toutes ses importantes collections et documents d'archives. Et son frère, Baptiste Masséna, donc avait repris l'étude notariale familiale, et il est aussi du nombre des fondateurs.
Alors, voilà. Masséna, celui-là, il était au conseil municipal,
oui,
de Brive.
Celui-là, oui.
Et il était absolument tordant parce qu'il n'arrêtait pas de manifester ses opinions qui étaient très conservatrices, hyper conservatrices, enfin celles de Chambal aussi. Mm-hmm. Et alors, chaque fois, il y a des histoires terribles.
Ah oui.
Il avait vraiment son franc-parler.
Donc voilà. François-Élie Masséna.
Il accusait les gens de Cornille et de Tulle d'empoisonner la Corrèze, parce que, évidemment, les égouts de Tulle et de Cornille se déversaient dans la Corrèze. Et donc, les gens de Brive, à l'époque, buvaient l'eau de la Corrèze.
Ah oui.
Et donc, buvaient les saletés de Tulle.
Alors, voilà Philibert Lalande.
Ah, Alors, agronomiste.
Oui, alors Philibert Lalande, il avait 40 ans à ce moment-là. Il était issu d'une famille bien connue à Brive, entre autres parce qu'il avait un ancêtre qui était libéral Lalande, marchand drapier, qui avait eu 13 enfants. Donc à partir de là, beaucoup de Lalande à Brive. Donc d'une famille aisée. Sa mère était une demoiselle de Marquessac. Donc il s'est adonné très tôt à la préhistoire et à l'exploration des grottes taillées. Il collectionnait les monnaies et les médailles. Il est décédé en 1925 après avoir été secrétaire de la société pendant 20 ans. Il ne doit pas être décédé en 25 parce que voilà, j'ai écrit ça et j'ai dû me tromper de date. Je vais vous dire pourquoi après. Il a dû décéder après. Il a été secrétaire de la société pendant 20 ans, puis vice-président en 1903, président en 1912 et président d'honneur en 1920. Alors on va arriver à celui dont le nom est resté le plus familier pour les brivistes, Ernest Rupin. Alors Ernest Rupin avait 33 ans lors de la fondation de la société. Il était très richement marié, donc avec Madame Rupin, que voici, née Augustine Mage. Voilà, donc il avait quitté son emploi de fonctionnaire à l'enregistrement et se consacre entièrement à ses passions, l'art, la botanique et l'histoire. Donc, son épouse, donc Madame Rupin et Augustine Mage, donc c'est une mécène de la société et de la ville de Brive. Alors, elle n'a pas participé directement donc aux activités de la société, mais elle a contribué, entre autres, à entretenir son mari, n'est-ce pas, qui n'a jamais travaillé et qui a pu nous consacrer beaucoup de temps. Et je crois que nous avons, c'est son salon que nous avons là-bas. Non,
non, le
non.
Salon, c'est Buissonni.
C'est Buissonni. Donc, on va y venir.
Là, c'est la collection des livres que Rupin a collectionné parce que c'était un grand bibliophile,
oui.
Il aimait beaucoup les livres.
Alors on le voit là, non, là, il est avec des tableaux. Il y a une autre photo où on le voit avec des...
Les tableaux sont au musée.
Avec, voilà, le voilà avec, dans sa bibliothèque, là. Voilà.
La Fluinée vient de Carénac.
Voilà. Et leur maison, c'était le... Actuellement, c'est quoi? C'est un restaurant ou c'est plus un restaurant?
C'est le restaurant.
Là, une pizzeria, là, sur les boulevards, là.
Mais ça, c'est la place, ce qui était à côté, là où était le nordiste.
Ah oui. Il y a eu un restaurant qui s'appelait chez Ernest. C'était à cause de lui, là, Ernest Rupin. Là.
Il avait fait des peintures à l'intérieur qui ont été détruites par le...
Il n'y a pas longtemps, par ce restaurant.
Il n'y
a pas 10 ans. Hein. Oui, oui. Donc, ça a été notre deuxième président, donc après Georges Mouret, donc à partir de 1881. Donc, vous voyez, Georges Mouret n'était resté que 3 ans. Donc, c'était un excellent organisateur, d'un caractère aimable et modeste. Il saura aplanir toutes les difficultés grâce à son sens de la diplomatie. En 1890, il organise à Brive le Congrès archéologique de France. Et dans son discours inaugural, M. de Marzy, président du Congrès, souligne l'importance des études publiées dans notre bulletin, avec une abondance extraordinaire de dessins, de gravures et d'eau-fortes. Bon, je vous signale que tous ces vieux bulletins, on peut les voir sur le site de Gallica. Tout a été numérisé. Hein. Alors, Ernest Rupin, c'est également un des pionniers de la spéléologie. Et donc, il va explorer courageusement, quand on sait comment ça pouvait se passer à l'époque, donc les abîmes et cavernes de la Corrèze et du Lot. Alors, il profite de ces excursions pour inventorier le patrimoine religieux et recenser la flore. Donc, il était peut-être inactif, enfin, je veux dire, il n'avait pas une profession, mais il n'arrêtait pas, il faisait beaucoup de choses. Et surtout, il faisait des photographies de très bonne qualité. Donc, voici par exemple un exemple. Donc, ce sont ces photos sur, donc, on nous dit, gélatino-bromure sur plaque de verre. Donc, ça a été conservé par le musée. Donc ça, c'est l'ancien presbytère Mérignac-l'Église, donc en Corrèze. Il s'intéresse beaucoup aux émaux limousins. Et ses photographies sont quelquefois le seul témoignage d'objets disparus, comme cette colombe eucharistique de l'église de Laguenne, qui était une pièce d'émaillerie du XIIIe siècle et qui a été volée en 1906. Donc les photographies d'Ernest Rupin nous permettent de voir des choses qui ont disparu. Et donc grâce à la fortune de son épouse, ses collections prennent une telle ampleur qu'en 1879, il en fait don à la ville et crée le musée, dont il devient le premier conservateur. Donc le musée Ernest Rupin, bien sûr, puisque c'est grâce à lui, grâce à ses collections, que ce musée a pu ouvrir. Donc on a vu que ça faisait partie des statuts, article 2 de notre société. Donc ce musée est installé dans l'ancien couvent des Clarisses, et il conservera le nom d'Ernest Rupin jusqu'à son déménagement ici même, donc à l'hôtel Labinche, en 1989. Et moi, je faisais à l'époque partie des amis du musée, et je me souviens que l'Assemblée générale de cette année-là avait été très houleuse, parce que beaucoup de brivistes n'appréciaient pas que le musée actuel ne porte plus le nom d'Ernest Rupin. Ils trouvaient que c'était quand même le fondateur du musée. Donc il a quand même son buste dans le hall, et une plaque. Mais donc le musée maintenant ne s'appelle plus Rupin. Donc il y a toutes ces collections d'Ernest Rupin, ainsi que d'autres donateurs de la société. Alors, Ernest Rupin, c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup et qui voulait s'accaparer beaucoup de choses pour le musée. Alors, il écrivait un peu à tous les maires des environs. Alors, on a conservé toutes ces correspondances, c'est assez amusant. Et là, par exemple, il avait écrit au maire d'Albignac. Il voulait, j'allais dire faucher quasiment, quoi, prendre des objets qui étaient dans l'église d'Albignac pour le musée. Et le maire dit qu'il ne veut pas, quoi. Il regrette qu'il n'entend pas céder les chapiteaux de son église. Parce qu'il pense que son église perdrait tout ce qui fait quelque peu sa valeur. Il était prêt à aller prendre des chapiteaux dans une église. Donc Ernest Rupin, c'est quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter. Donc c'est un personnage quand même intéressant.
D'autant qu'il avait quand même des problèmes avec les curés, parce qu'il avait écrit tout un livre sur Rocamadour, dans lequel il expliquait que Zachée, c'était pas du tout, Amadour n'était pas du tout le nommé Zachée, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait au temps du Christ, et que c'était un quelconque corps qu'on avait trouvé, quoi, un corps d'ermite quelconque. Et alors il y avait eu une polémique épouvantable avec l'Église.
D'accord, ah oui.
Heureusement, Madame Rupin était très pieuse.
Et elle a rattrapé
l'église, alors ça arrondissait un peu les angles. Mais il y avait quand même, vous voyez, des problèmes politico-religieux à l'époque.
Ah oui, bah oui.
Juste d'être rénové, d'ailleurs, les chapiteaux d'église d'Albignac, là.
Ah oui.
Effectivement, ils sont très beaux.
Bon.
Mais ils sont
ben oui,
peu visibles parce que, comme il y a certains sont à l'extérieur, dans une partie qui a été. L'église avait été coupée, une partie des chapiteaux sont à l'air libre.
Non, j'avais choisi cette lettre parce que je trouvais que c'était quand même un peu fort, quoi, je veux dire. Mais on a toutes ces correspondances, on a énormément de lettres de l'époque, et c'est amusant de voir un peu comment ils se démènent, et comment ils se démènent aussi pour avoir des sociétaires. Ils écrivent à tout le monde. Et alors, dès le départ, ils se disent que pour notre société, il leur faut un parrain prestigieux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas seulement connu à Brive, mais qui est connu au point de vue national. Alors voilà qui ça va être, alors. Mais qui est donc ce monsieur très célèbre, né en 1810, hein, qui a fait des études supérieur à l'école des mines, qui était à la fois ingénieur, homme politique et érudit, et conseiller général de la Corrèze. Ah, mais c'était qui ? Ferdinand Charles Léon de l'Astérie du Saillant. Voilà. Donc, voilà quelqu'un de très important qui va devenir notre parrain, si on veut. Donc, c'est quelqu'un qui a participé aux grands travaux d'urbanisme de Paris, à la création du musée des arts industriels. Il était passionné par l'art de son temps, l'art religieux de diverses époques et les émaux limousins. C'était aussi un grand voyageur, qui a fait des voyages aux États-Unis, en Italie, dont il a relaté tous ses voyages. Et il a été élu en 1860 membre libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc ça n'était pas n'importe qui. Et lorsqu'il décède en juin 1879, c'est son fils, Robert de l'Astérie du Saillant, né en 1849, Saint-Cyrien, puis chartiste, qui le remplace. Alors lui, il était professeur donc à l'école des Chartes en 1880, et alors, il va épauler de sa science exacte les travaux d'Ernest Rupin. Il va réhabiliter l'étude du Moyen-Âge. Et grâce à ses fonctions à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il a été le président à partir de 1901, il fait classer de nombreuses églises en Corrèze. Il a été également conseiller général, député de Brive en 1893. Et c'est lui qui fait reconnaître la société d'utilité publique en 1898 et l'a doté de très nombreux ouvrages sur l'architecture romane et gothique. Alors, parmi les fondateurs, nous avons aussi Gaston Gaudin de l'Épinay. Donc, membre fondateur, vice-président, puis président, lui, de 1908 à 1911. Et il est nommé, en plus, conservateur du musée de Brive en 1909, au décès d'Ernest Rupin, qui est mort assez jeune. Donc, passionné d'ethnologie régionale, il est l'auteur de nombreux articles sur les superstitions et les coutumes, les prières populaires, la langue occitane. Alors, nous avons aussi eu, au début, des personnalités difficiles, comme on dit maintenant. Alors, il y en avait une, c'était M. Édouard Taillebois. Alors, Édouard Taillebois, sa correspondance, on voit qu'il s'était un énervé. Il n'est jamais content. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que, alors là, c'est une histoire compliquée. Donc, on aurait prétendu lui infliger un blâme. Ah oui, alors, je ne sais plus. Oui, la société lui a infligé un blâme. Alors, c'est une histoire, écoutez, compliquée, parce qu'il avait prétendu, il s'était fait passer pour je ne sais pas quoi, pour le président ou le vice-président, qu'il n'était pas. Donc, on lui a infligé un blâme et il n'est pas content. Et donc, vous voyez, ça se voit son écriture. Hein. C'est un énervé. Hein. Donc, tout se passe pas forcément toujours très bien. Hein. Il y a des personnalités qui n'acceptent pas toujours. Là. Oui, il a une écriture très énervée. Donc, dans les semaines qui suivent donc la création de la société, donc le prosélytisme des fondateurs porte ses fruits. Parce que donc elle est créée en juin et en octobre on a déjà 201 adhérents et 10 membres correspondants. Et le maximum des adhérents sera atteint en 1978 lors du centenaire avec 1180 adhérents.
Et depuis l'œuvre de Monsieur Dautremont.
L'œuvre de Monsieur Dautremont, oui.
Instituteur, automatiquement membre de la société.
Oui, donc on avait tous les instituteurs de la Corrèze, ça faisait du monde, quoi. Alors maintenant, ben depuis, ça baisse, quoi. Voilà, donc ça a été le mieux. Donc, je vous ai dit que pour adhérer, il fallait être parrainé et puis écrire une lettre. Alors voilà, on a trouvé, par exemple, cet exemple de lettre. C'était bien écrit, le style de l'époque. Hein. Je suis on ne peut plus sensible à la gracieuse invitation que vous m'adressez pour m'engager à rentrer dans votre honorable société. C'est bien dit, quand même. Hein. Donc voilà, donc nous avons une petite collection de lettres, comme ça. C'est bien de son temps. Donc, dès le début, donc, le bulletin. Donc il faut savoir qu'on est quand même, je pense, parce que j'avais présenté à peu près cet exposé donc au congrès des sociétés savantes du centre, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, à Aurillac. Et on s'était rendu compte en discutant avec un peu toutes les associations qu'on est la seule à ne jamais avoir arrêté de publier notre bulletin. La plupart des autres sociétés ont eu des interruptions pendant les deux guerres, par exemple. Et nous, pas du tout, jamais. Les bulletins ont toujours été publiés. Donc les premiers collaborateurs du bulletin sont aussi bien de Tulle que de Brive, avec par exemple René Fage, l'abbé Poulbrière. Il y en a d'autres qui viennent du Quercy, comme Louis Grey et plus tard le chanoine Albe. Alors vous avez des auteurs qui puisent dans leurs archives privées, comme par exemple Fernand de Maillard, qui est issu d'une famille très notable de Brive. Quand on fait la généalogie, on se raccroche toujours plus ou moins à un moment ou à un autre au Maillard, parce qu'ils étaient très nombreux de familles. Et entre autres, il a publié le livre de raison de son ancêtre. C'est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier bulletin rend hommage à une autre société savante dont je vous ai déjà parlé de la Corrèze. C'est la Société d'agriculture qui avait été créée à Brive en 1763. Donc, dès le début. Donc, ce qui prouve bien que les 100 ans après, on n'avait pas oublié donc, cette société. Et on leur rendait hommage, en quelque sorte. En disant, ben voilà, c'était nos prédécesseurs. Et effectivement, je vous avais montré donc ce registre qui est conservé aux archives de Brive de la création de cette société d'agriculture de Brive. On peut dire que voilà, c'était un peu nos prédécesseurs. Donc, je vous ai parlé d'Édouard Taillebois, ce monsieur énervé. Alors, Édouard Taillebois, il fait des articles. Alors là, que maintenant, on trouverait quand même très, très démodé, il va étudier les races humaines, et particulièrement celle de l'Auvergne. La race auvergnate l'intéresse beaucoup. Et alors voilà, vous avez le type gaulois ou celtique. Donc, ça vaut la peine d'aller voir les premiers numéros. Alors, il va mettre les gens en catégorie, mais c'était la mode, hein. Ça se faisait quand même ça. Les grands, les petits, les blonds, les roux, les... voilà... Et il en déduit, en plus, pour lui, ça va dénoter d'un certain tempérament. Il y en a, ils sont plus intelligents ou plus... Voilà. Donc, on a plein d'articles sur cette question. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que donc presque tous les grands fondateurs de la société ont disparu avant les années 20. Bon, il en reste quand même quelques-uns, vous verrez. Et c'est une nouvelle génération, donc, qui va prendre le relais. Avec à sa tête pendant de nombreuses années des historiens de renom, comme Louis de Nussac, Louis de Saint-Germain, et surtout donc de célèbres préhistoriens. Donc notre association va être un peu spécialisée en préhistoire, si on veut, avec l'abbé Bardon et surtout les frères Buissonni. Donc vous avez là Jean et Amédée Buissonni, donc les découvreurs de l'homme de la chapelle aux Saints, qu'on voit ici devant une reproduction du crâne qui est de l'homme de Néandertal, qui les a rendus mondialement célèbres. Alors Madame Guély peut vous dire que ça n'a pas été simple pour des abbés de découvrir que nous descendions d'un homme préhistorique qui ressemblait un peu au singe. Ça a été très mal vu dans le milieu religieux.
Très mal vu jusqu'au moins en 1945.
Hein. Eh oui.
Vous prenez les revues, par exemple, des franciscains, la revue franciscaine, mm-hmm. Encore en 1945, ils discutent pour savoir si les hommes préhistoriques, c'était pas vraiment une race parallèle, vous voyez, mm-hmm. aux Romains, quoi, qui vivaient au temps des Romains.
Oui. Donc voilà, donc les frères Buissonni, donc qui sont très importants pour notre association, puisqu'ils ont, on a aussi un fonds important de tous leurs écrits, quoi, des frères Buissonni. Et alors ici, vous avez donc une photo. Alors elle est pas bonne, hein, elle est retirée d'un bulletin, mais elle est pas nette cette photo. qui montre donc la salle de la Société archéologique à l'hôtel Labinche, puisque pendant longtemps c'était dans ces bâtiments que qu'avaient lieu donc les réunions. Oui, oui. Donc on voit que la bibliothèque est bien garnie, donc elle recevra donc plus tard la collection complète donc des frères Buissoni. Donc il y a leurs propres travaux, mais également une correspondance qui s'est échangée avec des préhistoriens du monde entier. Alors, bon, on va aller un peu plus vite maintenant. Il est arrivé en 10...
Sont les fauteuils de Buissoni.
Voilà, alors là, par contre, les fauteuils, on les a toujours. Venez nous voir à Malemort, vous pourrez vous asseoir dans ces beaux fauteuils, un peu poussiéreux, hein, mais bon, des frères Buissoni, nous avons leurs meubles. On a des beaux meubles quand même. Oui, on a des très beaux meubles. Ça vaut le coup de venir voir. Voilà. Donc, en fait, on va arriver en 1928. Donc, je vous avais déjà fait aussi un exposé un jour sur, je ne vais pas y revenir, sur la société archéologique pendant la guerre de 14. Donc, bon, là, donc, on va arriver en 1928. Et c'est donc le cinquantenaire. Et donc, il va y avoir un bulletin spécial qui est très intéressant, qui récapitule justement qui étaient les principaux collaborateurs. Alors, je vais essayer de ne pas faire bêtise et de vous expliquer qui est qui sur cette photo. Alors, tout à fait, on va faire en suivant. Ça marche mon truc. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, alors, ici, c'est... Il faut que j'ai mes lunettes, moi. C'est Philibert Lalande. Voilà, Philibert Lalande. Ensuite, vous avez Clément Simon. Voilà, si Madame il veut dire des mots sur les uns ou les autres.
Non, mais celui-là, alors là, il est très empire, second empire.
Oui, oui, il fait démodé. Hein. Ah, ouais. Ouais. Alors ensuite, Paul Bial. Paul Bial, c'était le fils du colonel Bial de Colonge. Voilà. Oui, c'est le fils du colonel Bial. Il a été maire de Messac, entre autres. Bon, c'est quelqu'un qui a écrit des choses pas toujours bien vraies. Hein. Moi, j'ai été un peu gênée il y a bon, les 10 ans de ça. Parce qu'il a écrit, il y avait, bon, son père a écrit ses mémoires. Les mémoires du colonel Bial, c'est très intéressant. Donc, il a été prisonnier pendant la guerre napoléonienne. Enfin bon. Et donc, c'est les descendants qui habitent toujours à Messac ont republié ses mémoires. Et ils avaient aussi ce qu'avait écrit donc, le fils, Paul Bial. Et puis, vrai, ça ne collait pas toujours. Donc, il m'avait demandé si je ne pouvais pas revoir la généalogie de cette famille Bial pour essayer de s'y retrouver. Et je me suis rendu compte que ce Paul Bial, il s'était inventé une généalogie mirobolante. Bon, voilà. Il avait inventé que les Bial s'appelaient les Bial du Monteil, et qu'il y avait un château du Monteil. Il n'y a jamais de château du Monteil à Messac. Enfin bon, c'était extraordinaire. Et alors, ses descendants s'étonnaient que justement le colonel n'en parle pas. Quoi. C'était bizarre, lui, il ne parlait pas de ça. Ben non, c'était pas vrai. Quoi. Alors j'étais un peu gênée, mais finalement, ses descendants, ça les a bien amusés, cette histoire. Ils ont dit, non, c'est tout rigolo. Quoi. Donc c'est quelqu'un qui écrivait des choses, bon, à vérifier toujours ce qu'il disait, mais bon. Ensuite, vous avez René Fage. René Fage.
Tulliste.
Et Champeval. Alors, la photo est mauvaise. Ah, je crois que c'est la seule qu'on peut voir.
Oui, c'est tout ce qu'on met.
Ouais. Alors, vous savez, le Champeval, c'est des livres auxquels on se réfère. Hein. Champeval et Cambrière. Hein. Là, c'est Monsieur de Vallon.
Monsieur de Vallon raconte l'histoire de sa famille. Essentiellement, c'est la famille de Vallon, qui était la famille du Quercy. Le château, tous ses ancêtres, ouais. Tous ses ancêtres sont morts glorieusement sur le champ de bataille.
Ah oui, c'est formidable.
Mais comme il écrivait surtout entre 14 et 18,
ça tombait bien.
Ça se comprend. Quoi.
Oui. C'est pour ça qu'il y a un quai de Vallon à Tulle, c'est lui.
Ah oui,
merde.
Ah oui, merde. Voilà, ouais, ouais. Là, c'est le chanoine Albe, donc il venait du Quercy, c'est ça.
Ah oui, c'est un très grand savant.
Oui. Ensuite, monsieur Viré. Je ne sais pas qui c'est.
Ah, ça, je vois pas.
Oui. Ensuite, Louis de Saint-Germain. Alors, on a ses notes, si je me souviens bien, qui sont illisibles. C'est quelqu'un qui a une petite écriture en batte de mouche serrée. Alors, il a fait beaucoup, beaucoup de généalogie, il a étudié beaucoup de familles.
Ouais.
Alors, bon courage pour lire ce qu'il a pu écrire. Il écrivait, je ne sais pas si c'était pour économiser, il écrivait sur des petites bandes de papier comme ça, minuscules, on dirait des petits serpentins. Hein, c'est vrai, c'est incroyable.
Les notes de Louis de Saint-Germain. Mais il faisait ça pendant ses heures de travail.
Ah oui.
Parce qu'il était comment ça s'appelle, vous savez, le greffe.
Ah oui.
Il s'occupait du greffe et donc il recopiait tout ce qu'il y avait dans les anciens registres du greffe. Quoi. Alors je suppose que les dossiers devaient attendre. Hein.
Oui. Et là, vous avez Louis de Nussac, qui était un de nos présidents aussi. Ensuite, ici, donc, on passe en dessous,
c'est le quatrième.
Docteur Lafont.
Ah, c'est tout à fait à droite.
Ensuite, monsieur Roche. C'est pas les imprimeurs, ça, les Roches ?
Si. Oui, c'est Roche.
Voilà. Alors, vous avez les abbés. Donc, que je ne dise pas de bêtises, c'est Jean, Amédée et Buissoni. Et l'abbé Bardon. Mm-hmm. Oui, ils étaient jeunes sur ces photos, on a un peu de mal à les reconnaître. Là, ici, c'est le colonel Personne. Ensuite, encore en roche.
Encore en roche, ici.
Et puis, monsieur Dioucidon. Alors, là, vous avez Gaspéry. Raphaël Gasperi. Et Henri Delsol. Henri Delsol, qui a écrit une histoire de Brive, hein, c'est ça?
Oui.
Henri Delsol. Et alors, au moment du cinquantenaire, le président, c'est Gabriel Soulier. Alors, on a vu qu'il y avait Paul Bial. Alors, c'est la même famille, en fait. Hein. Les Gabriel Soulier, c'est le grand-père de Françoise Birot, donc la veuve de Maurice Birot. Françoise Birot, qui a été longtemps présidente des Amis de Collonges, donc c'était son grand-père. Et Paul Bial, c'était son arrière-grand-père. Voilà. C'est toujours cette même famille.
Collonges, c'était d'ailleurs la première ville qui s'est intéressée au tourisme.
Hein, oui. Et alors, l'année, donc, cette année-là, donc Gabriel Soulier, il était président seulement depuis un an de notre association quand il y a eu le cinquantenaire. Mais cette même année, c'est l'année de la fondation des Amis de Collonges aussi. Et alors, qui sont fondés aussi par Gabriel Soulier et l'abbé Bardon. Donc, on retrouve un peu les mêmes personnes. Il faut imaginer aussi tous ces gens comme des mécènes aussi. C'est des gens qui mettaient vraiment la main au portefeuille. À Collonges, ça a été pour rénover la chapelle des pénitents. C'était des gens qui avaient les moyens. Et puis aussi qui palliaient. Ça n'existait pas à l'époque. Je veux dire, il n'y avait pas d'aide pour restaurer des vieux monuments. Donc, c'était eux qui le faisaient. Ce qui fait que... Bon, la Société des Amis de Collonges, donc, existe toujours. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, Madame Guély, mais on est invité au mois de... Parmi nos projets de l'année prochaine,
oui.
Au mois de juillet, avec Madame Guély, on va pour le... C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils fêtent? Les 120 ans 100, oui. Non, pas encore. 80 ans de la société. Oui. Et, ou un truc de ce genre. Et on va parler donc d'un sujet qui fâche à Collonges, donc des protestants de Collonges. Puisque, bon, pour faire bref, vous savez, quand vous visitez l'église de Collonges, on vous explique que c'était merveilleux, qu'une partie était pour les protestants, l'autre pour les catholiques. Malheureusement, j'ai bien peur que nous, on leur dise que c'est pas vrai. Donc ça va pas trop leur plaire. Mais bon.
Ça sert à rien.
Oui.
Donc continuez à le dire.
Non, parce que les guides touristiques adorent. Ils adorent parler de ça. Donc, ça leur plaît pas. Donc, Gabriel Soulier, il était pharmacien à Brive, rue Toulzac. Et donc c'est ça, c'était l'arrière-petit-fils du colonel Bial, et c'était le petit-neveu, pardon, de Paul Bial. Voilà. Et lui-même avait fondé, donc la même année, en 1928, les Amis de Collonges. Alors là, il y a une photo qui est intéressante, qui a été prise, donc pour ce... Alors on va essayer avec la souris d'agrandir. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver à zoomer? Voilà. Alors on va essayer de voir qui on reconnaît là. Alors on reconnaît donc le président, le voilà, Gabriel Soulier. Et alors on s'est posé beaucoup de questions avec Madame Béli. On s'est dit c'était quand même des gens. Alors on n'a pas les noms. Hein. C'était des gens tout à fait bien éduqués et tout. Donc il y a des préséances. Donc on peut penser que de part et d'autre du président sont des gens importants. Et donc là, en fait, on sait qui est ce monsieur. Eh bien, c'est le premier président, ce monsieur Mouret, qui est 50 ans après, donc il est maintenant à 88 ans, et qui est venu exprès, parce qu'il n'habite pas la région, mais il est venu pour les 50 ans. Donc on est vraiment content de le voir. Et alors, donc, de l'autre, alors après, on s'est posé la question. Là, c'est probablement le président précédent. Donc, que je ne dise pas de bêtises, c'était le docteur... j'ai oublié. Crillière. Voilà, docteur Crillière.
C'est pas le Lavalière?
Non, je pense, d'après les photos, que c'est lui. Donc, il était médecin, c'est quelqu'un qui est originaire du Lonzac, qui était médecin à Brive et qui avait cessé ses fonctions pour des raisons de santé. Et d'ailleurs, il est décédé pas très longtemps après. Et voilà pourquoi, donc, Gabriel Soulier était devenu président. Et alors là, voilà, ce monsieur qui plaît beaucoup à Madame Guély à cause de ça, à la Vallière. Eh bien, moi, je me suis demandé si c'était pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était mort en 25, mais je me suis trompée, si c'était pas...
qui j'ai dit déjà
Je l'ai dit, c'est malheureux, je ne vais pas me rappeler. Attendez, ça va revenir. Oui, si c'est pas Philibert Lalande. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce registre-là, en 1930, à une réunion, on dit qu'il est présent. Philibert Lalande, qui n'est pas mort, et qu'il était pas, qu'on ne l'avait pas vu depuis cette assemblée. Donc je me dis, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui, parce qu'il a un côté un peu vieillot, c'est marrant. Avec
la nécrologie parue dans...
Si, il faudrait chercher...
Oui, mais justement, elle est parue après. Alors je sais, mais on ne sait pas, là, c'est des suppositions. Alors là, par contre, c'est Amédée Bouissonni et Jean Bouissonni ici.
Il y en a, on les reconnaît bien. Puis en plus, sur la bille en ecclésiastique, c'est plus facile. Oui. On les reconnaît. Alors, Madame Guélie a une théorie très intéressante sur les barbes et les moustaches. J'aimerais bien vous expliquer. Les idées politiques des messieurs.
Ah oui, c'est politique.
C'est politique.
En principe, barbe et moustache, c'est socialiste. Ensuite, moustache toute seule, ça peut être à droite. Et puis, il y a le petit bouc, là, le petit truc au milieu. Là, c'est... Ça fait un peu militaire. Hein. Oui. Et puis il y a les tout rasés, mais complètement rasés, c'est seulement les ecclésiastiques.
Pratiquement, oui.
Parce que
oui,
regardez oui. bien, des vraiment rasés. Mon grand-oncle, quand il est rentré chez lui, s'était rasé. Mm-hmm. Sa mère lui a dit : tu as l'air d'un acteur.
Ah. Ça ne se faisait pas, quoi.
Parce que les acteurs aussi, eux, se rasaient, bien sûr.
Alors il y en a un qu'on reconnaît. Qu'on reconnaît assez bien. Alors attendez, moi j'ai fait des bêtises, c'est pas ça que je voulais faire.
Il faudrait qu'on demande aux gens qui connaissent bien les brévistes s'ils reconnaissent des.
Oui, alors il y en a un qu'on reconnaît bien quand même, c'est. Alors attendez, je cherche. Je fais des bêtises pour son nom. On est en 28.
21 ou 31
28. Donc là, c'est Henri Delsol. Ça, c'est sûr, on le reconnaît bien. Voilà. Alors, à part lui, hein, ben, c'est pas évident de reconnaître. Alors, il n'y avait pas forcément que des ministres. À cette assemblée, ils avaient invité des présidents d'autres sociétés savantes. Ils avaient invité du beau monde. Alors là, bon, la photo, j'ai dû un peu la réduire, mais l'original est là. Et c'est assez amusant parce que, bon, vous pourrez la regarder de près tout à l'heure si vous voulez. Donc, vous voyez, j'ai un peu réduit parce que là, on s'est pris donc ici même, hein, devant le musée Labinche. Et là, derrière une arcade, il y a une dame qui se cache. Ah. Parce que là, vous avez remarqué, il n'y a vraiment que des messieurs. Ouais. Et pourtant, Madame Rupin était encore de ce monde.
Il y a beaucoup de jeunes.
Il y a un artiste au bout. Je me demande si ce n'est pas Gasperi, là, le deuxième rang. Tout au bout.
Là ?
Ah oui, oui, oui.
Là, c'est un artiste.
Là, oui, oui. Il y a un look artiste, oui. Oui, oui. Un peu, oui. Enfin bon, hein, s'il y a des gens qui ont envie de chercher, de reconnaître,
hein, c'est très important. Passer la photo dans le cadavre, ça
ne rien. Mais bon,
je ne sais pas. Hein. Ça fait un peu vieux quand même, 1928. Elle est dans le bulletin de 1928. 29, oui. Le bulletin qui commémore tout ça. Donc si je vous la remets en entier, donc.
Il doit y avoir aussi des présidents de sociétés autres. Qui ont été invités.
Oui, voilà, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Il y a des personnalités qu'on ne connaît pas. Quoi. Moi, je pense, comment dire, avec l'histoire des préséances, qu'au premier rang,
droite,
ce sont.
L'astérie. En bas à droite, c'est l'astérie.
Où hein?
Là. Là, celui-là, voilà.
Là?
Non. L'avant-dernier à droite, en bas.
Là?
Oui.
Ah oui, peut-être.
Ah, c'est l'astérie.
C'est
l'astérie, oui.
Ah oui.
Oui, c'est très possible. Mm-hmm. Et alors, c'est en été ou c'est en hiver?
Oui,
ah, bonne question.
Panama.
Bonne question. Je ne sais plus. Oui. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y en a qui sont, j'allais dire, démodés même pour l'époque, parce que les guêtres et la lavalière, ça se faisait tellement quand même. Ça se faisait plus beaucoup. Oui. Bon, alors, pour terminer, hein, parce que moi, je faisais les débuts, donc déjà, on a pris 50 ans, c'est déjà beaucoup. Eh bien, voilà ce qu'ils ont mangé, ces braves gens. Quand même, au chapeau. Ah, pas mal, hein.
Manger et bu.
Des petits pois à la gaillarde. Je sais pas, moi. Des petits pois à la lièvre à la limousine, je sais pas non plus. Enfin, ils avaient de l'estomac, c'est bien sûr. Ah oui. Mais ça, c'est le style banquier de l'Ulican. Mangez bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'association, donc le milieu bulletin, faisait des réunions et faisait aussi pas mal d'excursions. Hein. Et ça, dès le début. Hein. Tout à fait au début. Alors, il y en a qui avaient déjà. Assez vite, il y en a qui ont eu des automobiles. Ils faisaient des excursions. Voilà. Ça faisait partie aussi de, leur, de leurs activités.
Deux poissons, deux viandes, trois desserts.
Ouais.
De l'estomac.
Voilà, donc ce que j'avais à vous dire donc sur cette histoire.
Il y avait encore.
Il y avait plus de vin de la Corrèze.
Le vin de la Corrèze.
En 28.